I don't speak English. Une des bénédictions que nous avons d'être réunis ensemble, c'est la joie d'être autour du Seigneur et de partager la parole de Dieu. Donc, ce chant, évidemment, est une très belle introduction à la prédication. Il me faisait penser quand la parole disait, je crois qu'il était un terrain fertile, que nos cœurs soient comme un terrain fertile. Ça me faisait penser à ce verset de la parole qui dit que comme la neige et la pluie descendent du ciel et ne retournent pas au ciel sans avoir nourri la terre, arrosé la terre, sans l'avoir fécondée, sans l'avoir fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur, ni du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retournera pas à moi, c'est le Seigneur qui parle, sans effet et sans produire ce pourquoi je l'ai envoyé. Eh bien, c'est cette joie que nous avons de savoir que cette parole qui va être lue, entendue, comprise, reçue, méditée, va produire dans nos vies, peut-être immédiatement, peut-être un peu plus tard, son bon fruit. Oui, je voudrais vous parler de la grâce de Dieu. Alors, c'est un thème, évidemment, tellement important. Nous connaissons bien la grâce de Dieu, cette faveur imméritée que le Seigneur nous donne en Jésus-Christ. Bien souvent, cette faveur, cette grâce, nous la cantonnons involontairement à notre salut. Voilà, on est sauvé par la grâce, on va lire un verset. Baptiste, si tu peux afficher la première diapositive. Je vous ai mis toutes sortes de versets qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, si ce n'est la grâce de Dieu. Et ce premier verset, ça c'est un verset que les évangéliques aiment bien. Moi aussi je l'aime bien. Hein ? En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, peut-être pour ceux du fond, je vais le lire, c'est peut-être pas c'est très gros. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. Et souvent, bien ce verset, c'est notre voilà, on dit je suis sauvé par la grâce, merci Seigneur, tout est mérite de ta part, pas de moi. Je suis sauvé par l'œuvre de Jésus, et on oublie les autres aspects souvent de la grâce de Dieu dans nos vies de chaque jour. Et ce matin, je voudrais vous en parler. Par exemple, le suivant, pour ceux qui travaillent dans l'église du Seigneur ici à Cavaillon, ça peut être utile. Hein. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quel bonheur de savoir que c'est la grâce, c'est pas la force des poignets que les choses se font, c'est par la grâce de Dieu en moi. Ça peut être un encouragement pour l'une ou l'un d'entre nous. Concernant notre identité, par exemple, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Voilà. Je ne veux pas méditer, bien sûr, chacun de ces versets, mais c'est notre identité par grâce. Pierre ne s'arrête pas là et nous dit mais grandissez, croissez dans la grâce. Ça veut dire que c'est un processus de vie. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas. On peut connaître sa Bible par cœur, mais avoir besoin de grandir dans la grâce. Et puis, que dire de ces phrases qui reviennent en début d'épître, en fin d'épître, qu'on pourrait prendre négligemment pour des formules de politesse. Il n'en est rien. Que la grâce et la paix vous soient données, vous soient multipliées dans la bouche de Paul, dans la bouche de Pierre, dans la bouche des apôtres. Donc, je voudrais ce matin aborder quelques aspects de cette grâce dans un livre de l'Ancien Testament, le livre de Ruth. Alors, peut-être quelqu'un va réagir là, et peut-être pas le dire, on va pas couper la parole au prédicateur, mais le penser. La grâce, c'est le Nouveau Testament. La loi, c'est l'Ancien Testament. Il y a quelque chose de vrai, bien sûr. Mais je crois, personnellement, et vous le croyez aussi, que la grâce de Dieu parcourt toute la parole de Dieu. Si on pense à ce vêtement de peau dont Adam et Ève ont été revêtus, si on pense à l'agneau pascal dont le sang a été versé sur les poteaux et les linteaux des portes, si on pense à la manne, si on pense au rocher qui donnait son eau, évidemment, évidemment que la grâce est dans l'Ancien Testament. Et donc nous allons lire ce premier... Alors je voudrais vous dire pourquoi, comment on va envisager dans cette prédication le livre de Ruth. Au premier chapitre, nous allons nous émerveiller de quelque chose qui n'est pas induit dans le texte. C'est le travail de Dieu dans le cœur de Ruth au préalable. Parce que le passage que l'on va lire, c'est une déclaration d'amour pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu au préalable dans le cœur de Ruth ? Et je voudrais vous parler de cette grâce qui appelle. Le chapitre 2, nous verrons la grâce qui accueille. Au chapitre 3, nous verrons la grâce qui nous identifie de manière étroite à Christ, à sa mort et à sa résurrection. Et au chapitre 4, des fruits portés par grâce. Alors on va partir sur ce premier chapitre, Juge Ruth, et nous nous laisserons conduire. Alors, Naomi dit à Ruth, donc c'est dans le livre de Ruth pour ceux qui ont leur Bible, au chapitre 1er et au verset 15 par exemple, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi, où tu iras j'irai, où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Ce n'est pas bien la même version, mais vous avez reconnu le sens du texte. On est émerveillé par cette déclaration d'amour que fait Ruth à sa belle-mère, mais au-delà de sa belle-mère, que Ruth fait à Dieu. Que s'est-il passé dans le cœur de cette jeune femme moabite pour qu'elle prenne une décision aussi radicale de quitter, effectivement, ses idoles, on en a parlé ce matin, de quitter sa famille, de quitter son pays pour rejoindre un pays qu'elle ne connaît pas, une société qu'elle ne connaît pas, une langue que probablement elle ne connaît que peu. Que s'est-il passé ? Alors, si vous voulez, on peut faire un retour en arrière d'une cinquantaine d'années. Et tout commence là, dans un petit village à côté de Jérusalem, Bethléem, 7-8 kilomètres. Naît un petit bébé qui fait la joie de ses parents, à tel point qu'il l'appelle d'un nom merveilleux, « Mon Dieu est roi ». C'est chouette de s'appeler comme ça, « Mon Dieu est roi », Élimélec. Et c'est une période faste, c'est une période riche dans cette contrée. Il y a du blé, il y a de l'orge. C'est ainsi dans le livre des juges, du temps des juges, c'est comme ça. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Un coup le peuple est fidèle, repentant, tourné vers le Seigneur et il y a abondance. Et le Seigneur dans sa justice et dans son amour, est obligé de sanctionner dès qu'il se tourne vers les faux dieux, dès qu'il se tourne loin de lui. C'est toute l'histoire du livre des juges. Et donc là, c'est une belle période. À la même période, quelques rues plus loin, naît un autre petit enfant. C'est une petite fille. Ma princesse, ma gracieuse, Naomi. Là aussi, les parents donnent à l'enfant le prénom qui correspond à leur état d'âme. C'est comme ça que ça se passe dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que l'on vit. On appelle ses enfants de ce que l'on ressent. Et tout est bien. Ses enfants grandissent et ils se marient. Elimelech épouse Naomi. Mais la période en 20 ans, un peu plus peut-être, a bien changé. Et le peuple d'Israël est dans une mauvaise passe. Une passe de désobéissance, une passe loin de Dieu. Et le texte nous dit un peu plus haut que Dieu... y a la famine, il n'y a plus rien à manger. Tout ça pour faire réfléchir. Ça peut être une aide à notre réflexion pour non seulement nos vies, mais aussi les choses que l'on ne comprend pas toujours. Il y a peut-être aussi une raison. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne permet pas certains écarts et que dans son amour, il veuille nous ramener de cette manière. Ce n'est pas la seule manière de Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant, on l'a chanté, il peut... l'amour est inventif, et du côté de Dieu, les choses sont tellement vastes. Pour ce qui est d'Elimelech et Naomi, qui ont maintenant deux enfants, Maclon et Kilion, et là aussi, quel nom ont-ils donné à leurs enfants ? Maclon, malade, chétif, Kilion, dépérissant. Pas facile à porter ces noms-là. Hein. Dépérissant, tu joues avec moi à la récré. Pas facile à entendre. C'est difficile pour un enfant de porter ces noms que les parents ont donnés parce qu'ils vivaient ces moments très difficiles. Et les moments deviennent tellement difficiles pour cette famille que Elimelech et Naomi décident de quitter Bethléem. Bethléem, pensez-vous, la maison du pain. Beth, maison, et Am, le pain. Bethel, maison de Dieu. Tous les mots qui commencent par Beth, c'est maison. Et quitter la maison du pain, c'est pas facile, mais c'est la décision qu'ils ont prise. Et les voilà partis. Alors, ils partent de chemin de Jérusalem à Jéricho. Vous connaissez ce chemin qui est repris dans les évangiles, dans la parabole du bon samaritain. Ce chemin qui descend. Alors, c'est physique, certainement, mais combien ça devait être moralement éprouvant de quitter son pays, de quitter son peuple. Les voilà donc arrivés après un dénivelé de 1300 mètres, à peu près, au bord du Jourdain. Ils le franchissent à un gué et ils sont dans l'actuelle Jordanie. Ils descendent le long de la mer morte à gauche, font peut-être une dizaine, vingtaine de kilomètres, et là montent et arrive sur le plateau de Moab, à peu près 1000 mètres d'altitude. Et là, il a plu. L'herbe est verte, il y a donc du travail, il y a donc à manger, du blé, de l'orge. Et ils ont, semble-t-il, une réponse à leurs problèmes. Vous connaissez aussi la suite, les choses ne vont pas bien, parce que Elimelech meurt. Et quelques temps après... Nouveau malheur, Kilion et Maclon meurent. Et ces trois femmes, veuves, désespérées, ne font que pleurer. Si on lit le texte un peu avant, celui que nous avons lu, nous le lisons. Et que faire ? Pas de mari, pas de revenus sociaux, évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Le mari, c'est la sécurité. C'est la sécurité pour manger, c'est la sécurité pour beaucoup de choses. Pas de mari, c'est la détresse, c'est la plus absolue. Je fais une parenthèse. Nul doute que ce texte de Luc, de Ruth, soit dans nos Bibles, mais ait d'abord été écrit pour Israël. Ce livre de Ruth, c'est un message pour le peuple de Dieu qui ressemblait à Naomi, qui ressemblait à ces trois femmes complètement démunies. C'est un langage que Dieu utilise au travers d'une histoire vécue, comme il a utilisé bien avant Abraham et le sacrifice de son fils, par exemple, pour parler au peuple. Et puis aussi avec Osée, bon, plus tard, Dieu se sert des circonstances du peuple d'Israël pour parler. Nous le prenons pour nous et nous avons raison, et on va en parler tout à l'heure par rapport comment interpréter ce livre de Ruth pour nous, mais là, je pense que quand même, il figure bien au niveau de la Torah, de la Bible judaïque, au bon endroit, juste après le livre des juges, pour montrer quoi ? Pour montrer que le cœur de Dieu est un cœur de restauration, un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur qui ramène la paix, la joie, l'amour, là où tout est perdu. Et c'était bien... quel réconfort de lire Ruth quand on a lu le livre des juges. Je ferme ma parenthèse. Naomi, comment elle l'apprend, je ne sais pas. Un colporteur, une caravane de chameaux qui passait. Naomi apprend que Bethléem a été visité par la pluie, donc par la bénédiction, donc par Dieu. Et elle se pose la question et elle finit par décider de rentrer. Et elle dit à ses belles filles, écoutez, restez, retournez avec vos parents, vos amis, votre culture. Et elle ose même dire vos dieux. Drôle de manière de continuer son évangélisation. Mais on ne va pas juger Naomi dans la détresse. Et une de ses belles filles comprend qu'il y a peut-être un peu plus de, à son niveau à elle, humainement, un peu plus de sécurité de rester là. Quant à l'autre, Ruth, et c'est là notre texte d'aujourd'hui, décide de suivre sa belle-mère et de s'attacher à elle et de s'attacher au Dieu de sa belle-mère, qui devient son Dieu. On peut, dans notre langage évangélique, dire que Ruth se convertit. Ça nous aide à comprendre. Oui, Ruth se donne à Dieu, dans la limite de sa compréhension des choses. Mais je crois que quand même Ruth a été évangélisée. Ruth, Élimélec et Naomi ont fait du bon travail. Ils lui ont parlé de qui était l'Éternel. C'est impensable de penser autrement. Qui était l'Éternel ? Qui était ce Dieu qui les avait sauvés de l'Égypte ? D'ailleurs, dans la culture commune des Moabites, c'était connu. Si vous lisez Exode chapitre 15, vous lisez que les guerriers de Moab ont tremblé dans le cantique de Moïse. Donc si les guerriers de Moab ont tremblé, c'est que dans le pays de Moab, on savait ce qui s'était passé en Égypte, on savait que l'Éternel était un grand Dieu, et on savait qu'il ne fallait pas trop se frotter au peuple d'Israël. Mais je pense que par Élimélec et par Naomi, Ruth a appris beaucoup d'autres choses que de se méfier de ce Dieu puissant. Elle a appris la grâce. Elle qui sans doute était horrifiée de ce que exigeaient Moloch et Kemosh, les idoles moabites. Ces idoles moabites, c'est Dieu qui exigeait qu'on leur offre des enfants. Probablement horrifié de ces choses et voyant que Dieu avait pris soin d'un peuple dans le désert, n'avait pas permis que leurs chaussures s'usent, comme dit Deutéronome, n'avait pas permis qu'ils meurent de soif, que le rocher avait donné son eau, que la manne était tombée tous les matins. Combien Ruth était émerveillée de cette grâce. Et bien sûr, que son cœur a penché du bon côté, du côté de l'Éternel. Et peut-être que cet appel... C'est pas peut-être, c'est sûr, a retenti dans nos cœurs à chacun ici. Si nous sommes là, c'est que nous avons entendu l'appel du Seigneur en grâce. Et s'il y avait quelqu'un, peut-être ce matin, moi je ne vous connais pas tous, mais qui hésitait entre les dieux de ce monde et l'Éternel, que le choix se fasse vite par l'action du Saint-Esprit dans vos cœurs pour choisir vraiment. Celui qui est un Dieu merveilleux de grâce, comme on l'a chanté, comme on l'a loué, et qui est 1 000 000 000 de fois supérieur en grâce à ces idoles dont on vient de parler. Dans ce premier chapitre, donc, ce que j'ai voulu mettre en exergue, c'est ça, c'est la grâce dans l'appel de Dieu au préalable, dans la conversion de Ruth. Dans le chapitre 2, nous avons nous faisons connaissance avec un personnage qui, à n'en pas douter, pour moi, est un type du Seigneur Jésus. Je vais peut-être donner quelques raisons à cela. D'abord, son nom, en Dieu et la force. Boz, ça signifie ça, en Dieu et la force. Ensuite, parce que les premiers versets du chapitre 2 nous disent que c'était un homme puissant et riche. Ça peut aider aussi à aller dans ce sens. Mais surtout, la raison qui me semble la plus importante, c'est que Boz est un rédempteur. Et le rédempteur, c'est celui qui rachète. Le rédempteur, c'est celui qui apporte un soulagement lorsqu'il y a un veuvage, lorsqu'il y a, dans la pensée de Dieu, c'est dit dans Lévitique chapitre 25, le rédempteur, c'est celui qui apporte son soutien quand il y a un veuvage et qui apporte la vie dans une famille éplorée. Et c'est donc le cas. Boz est de la famille d'Élimélec et il est un proche parent. Et il va pouvoir, on va le voir dans la suite, apporter à la famille de Naomi et de Ruth, enfin à Naomi et à Ruth, un soutien particulier. Donc en ce sens, le mot rédemption, rachat, nous parle du Seigneur Jésus, évidemment. Et ce que je voudrais mettre en avant donc, dans ce deuxième chapitre, c'est l'accueil. Après l'appel, il y a l'accueil. Comment Ruth est-elle accueillie dans ce nouveau pays? Certainement, elle a dû être prévenue par Naomi. Tu sais, les Moabites, c'est un pays maudit pour nous les Juifs. Il faut absolument qu'on ait aucun contact avec les Moabites. C'est un peuple qui, tu le sais, qui est issu d'un inceste. Nous, on ne peut pas supporter ça. C'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Il y a des faux dieux. Donc, tu vas être suspecte. Tu vas être mise à l'index. Arme-toi de courage, ce ne sera pas si facile que ça. Et probablement que Ruth, toute courageuse qu'elle soit, se demandait bien comment allait se passer son accueil, enfin comment elle allait se passer son arrivée à Bethléem. Et si nous avons été émerveillés tout à l'heure par la grâce de l'appel, nous pouvons être émerveillés maintenant par la grâce de l'accueil. Et nous allons lire ce chapitre 2. Du moins ça. C'est donc au verset 5. C'est Boz qui parle donc à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs. Il lui dit, mais qui est cette jeune femme? À qui est-elle? C'est une jeune Moabite qui est revenue, répond-il, avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes, regarde où l'on moissonne dans le champ, et va après. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit, « Mais comment ai-je trouvé grâce à tes yeux que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Et Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père, ta mère, le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, et car tu as consolé, tu m'as consolé, et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Donc, le slide suivant. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre, dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea, se rassasia, garda le reste. Quel émerveillement! Comment se fait-il qu'elle soit accueillie de cette manière, elle qui s'attendait à toute autre chose? Ah, mais là, nous apprenons à connaître notre Dieu. Nous apprenons à connaître ce Dieu qui lit chacun des cas. Nous apprenons à connaître ce Dieu qui ne fait pas de distinction au niveau de la race, au niveau de la couleur, au niveau de quoi que ce soit d'autre, mais qui lit le cœur et qui voit ce qui s'y passe. Dieu a lu le cœur de Ruth et a vu ce qui s'y passait. Cet intérêt, cet amour, cette approche. Ça ressemble un petit peu à, vous savez, à Pierre quand il est sur le toit de la maison dans le livre des Actes et qu'il voit descendre cette nappe. Dieu lui dit, ne tiens pas pour impur ce que moi j'ai purifié. Combien le Seigneur nous rappelle à chacun de nous ce matin que son accueil envers chacun est de cette manière et de cette saveur. Combien le Seigneur nous dit ce matin aux uns et aux autres, oui, je t'ai accueilli il y a X années quand tu t'es tourné vers moi dans ta conversion, mais je continue à t'accueillir aujourd'hui. Je continue à te porter contre moi. Malgré tout ce que tu pourrais peut-être te reprocher, malgré tout ce que ta vie apporte comme échec, comme déception, comme tristesse, je suis celui qui t'accueille. Tourne vers moi un regard de confiance. Trouve vers moi un regard d'humilité. Tourne vers moi un regard de foi. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, l'humilité et la foi. Et il nous restaure. Et c'est vraiment bien de connaître le Seigneur sous cet angle-là, les uns et les autres. Et de ne pas se dire, oui, mais je suis venu au Seigneur par la grâce, mais maintenant, voilà, il y a ceci, il y a cela, il faut que j'avance avec la force des poignets, je dois ceci, je dois cela. Non, ouvrons-nous, frères et sœurs, à cette grâce merveilleuse de Dieu qui nous accueille et qui nous transforme. Il y aurait tant d'autres choses à dire sur ces versets, mais je veux passer au chapitre 3. Parce qu'il y a aussi là quelque chose à recevoir du Seigneur ce matin pour chacun de nous. Au chapitre 3, nous trouvons une Naomi dans l'intelligence spirituelle, dans l'intelligence de la foi. Naomi est restaurée, le Seigneur a restauré son enfant. Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oint-toi, puis remets tes habits, descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger, de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle répondit, je ferai tout ce que tu diras, tout ce que tu as dit. Naomi a dans ses pensées pour Ruth la pensée du repos. Arrêtons-nous un instant sur ce mot, le repos. Souvent dans notre idée à nous, et c'est juste aussi, mais ce n'est pas le seul sens, c'est le repos quand on est fatigué. Je ne pense pas que ce soit ce sens-là qui soit donné, ce texte. D'ailleurs, dans la Genèse, il nous est dit que Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu était fatigué? Est-ce qu'on peut penser que Dieu soit fatigué? Absolument pas. Dieu ne se fatigue pas dans le sens de la commun de la fatigue. Dieu s'est reposé parce qu'il voulait entrer dans la satisfaction de son travail. Dieu s'est reposé parce qu'il voulait se réjouir de ses œuvres. C'est ça le sens du repos. Et je crois que le Seigneur nous dit ce matin, aux uns et aux autres, entre dans mon repos. Entre dans la joie et dans la satisfaction de mon travail. Quel travail? Eh bien, nous, bien sûr, c'est de l'herméneutique, c'est une façon d'interpréter la parole de Dieu. Obligé de me suivre jusqu'au bout dans ce sens de l'herméneutique, de l'interprétation, mais je crois que là encore, nous avons dans ce qui se passe dans ces versets, un sens spirituel pour nous, pour nous amener dans une paix, un repos, peut-être qui nous manque. Que fait Boaz? Ça doit être important, puisqu'il n'emploie pas un subalterne pour faire ça. Il le fait lui-même. Il vanne. Et qu'est-ce que vanner? Vanner, c'est un travail important qui consiste à jeter en l'air un jour de vent le grain et la balle. La balle qui est légère est emportée par le vent et le grain qui est lourd retombe dans l'air. Et ainsi, on arrive à purifier ce grain en le séparant de la balle. C'est ce qui s'appelle le vannage. Et on peut continuer avec le criblage aussi, qui va dans le même sens, qui est encore un peu plus précis. L'interprétation que je veux faire là, c'est que le Seigneur nous vanne. Qu'est-ce qu'il sépare en nous ? Il sépare ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Le Seigneur n'aime pas ce mélange-là dans nos vies. Et il sait que nous ne pourrons trouver la paix et le repos que lorsque nous serons bien vannés dans le bon sens, c'est-à-dire lorsque il aura produit dans nos cœurs ces élans, ces choix, ce travail intérieur qui vise à ce que la chair soit mise de côté et ce que l'esprit, les choses de l'esprit soient mises en avant. C'est un travail délicat que le Seigneur ne laisse faire à personne d'autre qu'à lui-même. On serait bien maladroit si nous devions vanner nos frères et sœurs. Et je ne sais pas si moi-même j'accepterais que mes frères et sœurs fassent ce travail sur moi-même. C'est un travail très délicat et même quand c'est le Seigneur qui le fait, nous rejambons bien souvent. Mais quand le Seigneur le fait, ce n'est pas pour nous punir, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous amener dans le repos. Est-ce que nous sommes conscients de ça ? Est-ce que nous sommes conscients de la motivation du Seigneur quand il nous permet dans nos vies ce travail un peu violent, c'est exagéré, mais un peu physique ? Nous voyons bien ce à quoi ça peut correspondre. Vous savez, il y en a deux qui veulent nous vanner quelque part. Le Seigneur veut le faire d'une part et le diable veut le faire d'autre part, mais dans des motivations complètement opposées. Le Seigneur, c'est pour enlever la balle et laisser le bon grain. Et le diable, c'est pour que la balle reste et que le bon grain soit mis de côté. Vous voyez les motivations. Donc, apprenons à discerner dans nos vies et dans nos épreuves quel sens il y a dans ce que nous traversons. Je ne peux pas développer plus, il y aurait beaucoup à développer, mais je pense que le Saint-Esprit est capable de le faire dans nos cœurs et aujourd'hui, mais dans les jours qui suivent, si nous revenons sur ces textes. Il y a, de la part de Naomi, 7 impératifs qu'elle donne à sa belle-fille. 7 verbes à l'impératif. Et c'est intéressant de s'y pencher. Je ne peux pas les développer en détail, parce que ce serait long, mais rapidement. D'abord, lave-toi. Ça, c'est assez facile à comprendre. Le Seigneur dit à Pierre, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Le lavage, c'est quelque chose d'inéluctable dans nos vies de chrétiens. Il faut qu'il y ait ce lavage par la parole de Dieu, par le Seigneur qui agit, par son esprit, qui lave nos cœurs de la souillure que nous avons contactée, ici ou là, dans ce que nous avons vu, dans ce que nous avons entendu, dans ce que nous avons pensé, dans ce que... Que de choses nous met de la poussière sur nous ou de la boue, et le Seigneur doit nous laver. C'est le sens de Jean 13 que vous connaissez. Lave-toi, oint-toi. Alors il y a des versions qui sont souvent des transcriptions qui mettent parfume-toi. Bon, c'est peut-être plus agréable dans le sens romantique, dans le sens féminin. Moi, je crois qu'il faut rester sur le mot, je suis allé vérifier le mot en hébreu. Et ce mot en hébreu, chaque fois qu'il est utilisé, 8 ou 9 fois dans l'Ancien Testament, c'est chaque fois « oindre d'huile ». Donc, on va rester sur ce verbe « oindre ».« Oint-toi » nous fait penser au Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit est nécessaire dans nos vies lorsque le Seigneur nous... travaille dans nos vies pour nous amener plus près de lui, en union avec lui. Que fait l'onction du Saint-Esprit en nous ? Elle nous donne du discernement. Il y a des versets, je ne vais pas les lire, ce serait trop long, mais elle nous donne du discernement. Ensuite, elle nous permet de nous rapprocher de lui, l'onction. Elle nous permet de porter du fruit. Elle nous protège aussi. Une onction qui protège. Nous pouvons chercher dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'il y a le mot onction, remets tes habits. Alors de quoi nous sommes revêtus? Nous sommes revêtus de Christ. Nous avons revêtu Christ. Nous avons revêtu la nouvelle nature. Nous avons revêtu ce qui est l'homme nouveau. Tous ces versets qui sont dans les épîtres, nous les connaissons. Et évidemment, nous avons à les mettre en pratique, revêtir Christ et laisser de côté la vieille dépouille de la chair. Tout ça, ça va dans le même sens. Et descend, quatrième impératif. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a, oui, nous avons besoin quelquefois de descendre. Zachée a eu besoin de descendre de son arbre. Tout ça, on peut aussi l'interpréter. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons, nous restions sur nos hauteurs d'homme, nos hauteurs d'orgueil, nos hauteurs de suffisance, nos hauteurs de jugement sur les autres. Et nous avons besoin, les uns et les autres, d'entendre cette voix qui nous dit « Tu dois descendre. Tu dois descendre devant tes frères, devant tes sœurs, devant ton mari, devant ton épouse. Tu dois descendre devant ton employeur. » C'est difficile de descendre. Mais écoutons peut-être le Seigneur qui nous le dit ce matin. Le cinquième impératif, ou le sixième, je ne me souviens plus, c'est observe l'endroit où il se couche. Que pouvons-nous dire sur cet impératif? Observer, c'est regarder avec précision. C'est chercher quelque chose de précis dans un panorama plus général. Quand on observe un paysage ou quelque chose, c'est quelque chose qui... voilà, on se focalise sur un point. Observe. Et que devons-nous observer dans le Seigneur? C'est la croix, l'endroit où il s'est couché. C'est là où il est mort. C'est là où il a souffert. C'est là où il a fait l'œuvre de la rédemption. C'est là où il a porté nos péchés. Et nous devons régulièrement venir à la croix. Nous le savons, ça fait partie de notre vocabulaire chrétien, évangélique. Et la pensée qui suit... et la pensée du baptême, pas toujours vue dans celui qui se fait baptiser, mais qui doit être vue dans chacun de nos cœurs chaque fois qu'on parle du baptême. Chaque fois qu'on assiste à un baptême, d'ailleurs, ça devrait être notre enseignement à nous-mêmes. On est souvent un spectateur en disant « il se fait baptiser, qu'il est beau dans son amour pour le Seigneur, il confesse ses péchés, il accepte Jésus comme son sauveur ». Tout ça, c'est vrai. Mais on devrait aller plus loin chacun de nous et nous voir descendre avec Christ dans la mort et dans la remontée, dans la résurrection. Et c'est ce qui observe l'endroit où se couche et toi va découvrir ses pieds et te coucher. Vous voyez cette interprétation que l'on peut avoir du livre de Ruth, que je crois juste et que je crois applicable par le Saint-Esprit à nos vies. Que le Seigneur nous aide à trouver le repos dans cette identification à Christ. Parce que souvent, les chrétiens évangéliques sont à l'aise avec cette vision de la croix. Christ est mort pour mes péchés. Combien ils ont raison et combien ils louent Dieu pour cela. Et combien ils devraient louer encore Dieu. Et combien dans nos cultes, ça devrait fuser. Les actions de grâce, les paroles d'adoration devraient fuser dans nos cultes. Seigneur, merci, tu es mort pour moi sur la croix. Tu as porté mes péchés, tu as souffert pour moi. Nous sommes trop silencieux sur ces choses. Le Seigneur a besoin d'entendre, c'est pas le mot, aime entendre notre adoration dans ce sens. Mais il y a un deuxième sens, qui est celui de ce que nous sommes morts avec lui. C'est-à-dire que notre vieil homme, notre chair, est crucifié. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons du mal à louer le Seigneur. Et pourtant, il y a un grand repos qui est attaché à cela. Mort avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous ces versets qui nous parlent de cela. C'est un peu l'enseignement que nous avons dans l'enseignement sous forme de type. L'agneau pascal donne son sang et le peuple est racheté, les péchés sont pardonnés, mais quand ils arrivent au Jourdain, ils traversent le Jourdain, c'est encore un aspect de la mort de Christ, et les 12 pierres sont au fond du fleuve et les 12 pierres sont rétablies sur la berge, mort, avec Christ, ressuscité avec Christ. Tout ça, c'est des images typiques. Et nous arrivons au chapitre 4, car on peut penser qu'humainement, Boaz a des sentiments pour Ruth, mais je préfère rester sur la spiritualisation de ce passage, mais on peut penser ça aussi humainement, et on peut penser que Ruth a compris le message de sa belle-mère, qu'elle a compris que Boaz serait un bon mari, elle a déjà goûté un accueil merveilleux, un cœur merveilleux. D'ailleurs, je fais encore une parenthèse. C'est intéressant de réfléchir à cela. D'où Boaz tient-il cette propension à l'accueil? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous connaissez la maman de Boaz? La maman de Boaz, c'est Rahab. Rahab, c'était une femme qui était cananéenne et qui, elle aussi, aurait dû périr avec le peuple cananéen, mais qui a eu la foi en l'Éternel. Une foi merveilleuse qu'elle a mise en pratique. Elle a caché les espions et elle les a fait fuir par la fenêtre. Elle a été préservée par Dieu. Elle s'est mariée avec un officier de Josué, paraît-il, en tout cas un israélite, Salmon. Et ils ont eu un enfant qu'ils ont appelé « En Dieu et ma force », je l'ai dit tout à l'heure. Et nul doute qu'elle ait enseigné son enfant avec ses notions d'accueil, d'amour de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un a été racheté comme Rahab a été racheté, ça produit un cœur bouillant pour le Seigneur. Un cœur qui ne peut pas se taire. Et Boaz a été enseigné dans toute son enfance, probablement après, sur la notion de l'amour de Dieu, l'accueil de Dieu, la grâce de Dieu. Et voilà que ce que l'on a reçu d'une manière aussi belle, on le reproduit. Puissent nos enfants, nos petits-enfants, reproduire ce qu'ils voient en nous de bon du Seigneur. Ça nous responsabilise, n'est-ce pas? Les voilà mariés au chapitre 4. On va lire le texte. Verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, dont le nom sera célébré en Israël, c'est-à-dire le nom d'Obed. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux que toi, pour toi, que sept fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, il fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, « Un fils est né à Naomi. » Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ah, j'ai jamais vu ça. Les voisins qui donnent le prénom de l'enfant. Je ne sais pas si vous connaissez ça dans votre vie, mais c'est la première fois que je vois ça, que les voisines donnent un prénom. Mais certainement que les voisines ont une onction aussi sur elles et sont vraiment dans la pensée de Dieu, puisque le nom d'Obed, on va donner la signification, signifie celui qui sert ou celui qui adore. Parce que servir, adorer, c'est le même mot. Alors, ainsi se termine notre prédication, notre méditation. On est parti de loin, n'est-ce pas? On est parti de Moab, de quelque chose de perdu, de quelque chose de complètement... on ne sait pas... Oui, c'est perdu. Et on arrive à un enfant qui adore Dieu, qui porte l'adoration en lui et qui va être dans la lignée du Seigneur Jésus. Puisque Obed, lui, va avoir un fils qui s'appelle Isaïe. Et Isaïe, vous le savez, c'est le papa de David. Le roi David. Et évidemment, Jésus est le fils de David. Et dans le premier chapitre de l'évangile de Matthieu, on a toute cette généalogie qui reprend. Et Ruth, la Moabite, figure dans cette généalogie. Son prénom est là. Merveille des merveilles de la grâce de Dieu. Ce message ce matin, pour chacun de nous, c'est pour ancrer dans nos cœurs que rien n'est figé lorsqu'on traverse des moments difficiles. Rien n'est perdu. Avec Dieu, rien n'est perdu. Nous devons garder cela pour quelque chose que nous vivons aujourd'hui, mais peut-être le garder précieusement pour quelque chose que nous vivrons demain, après-demain. Car évidemment, dans la vie, les moments difficiles sont là. Et nous devons être enseignés, nous devons garder ces choses dans nos cœurs afin que notre foi soit enracinée et que nous soyons des rudes, nous soyons des gens capables de mettre en pratique cette foi merveilleuse dans la grâce de Dieu. Laissons-nous imprégner de ces pensées divines parce qu'elles découle de cette grâce de Dieu, elle découle de cette pluie, de cette neige qui descend. La pluie a un effet immédiat, la neige a un effet plus tardif. Ça, c'est la nature qui nous l'indique. Peut-être que vous êtes dans une période de froid, peut-être que cette neige qui est bonne n'agit pas tout de suite sur vos vies, mais elle est là, et il va y avoir la fonte, il va y avoir l'azote qui va descendre, et la bénédiction de Dieu est juste retardée de quelque temps dans vos vies, dans ma vie. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous amène à porter du fruit en adoration, nous qui venons les uns et les autres finalement de bien loin. Amen.